Le journal Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour, face au Goliath, Parcoursup, des commissions au secours des 42 000 bacheliers qui n'ont encore aucune proposition. France Inter a eu accès à leur séance, un travail de titan, vous le verrez. Communiqué en pleine nuit, Elisabeth Borne remplace François de Rugy à l'écologie. Elle garde son portefeuille des transports. Où est le changement de cap? Les Verts sont très sceptiques. La crise de Rugy, victoire de la défiance ou de la démocratie, le débat est ouvert. CETA, la bataille commence à l'Assemblée, appelée à ratifier l'accord de libre-échange Europe-Canada. Des corps de migrants rejetés sur la plage, nous sommes allés à Zarzis en Tunisie, 15 jours après le naufrage qui a fait 83 morts. La mort du chanteur Johnny Clegg, symbole de l'anti-apartheid. Et puis JO 2024, pour le surf, pourquoi pas? Tahiti, l'île est candidate.
Dans un quart d'heure, le député Rassemblement National, Louis Alliot, sera notre invité.
France Inter.
Parcoursup ou comment mettre de l'humain face au Goliath.
Ce monstre aux multiples ramifications qui laisse encore 42 000 lycéens sans aucune proposition. Plus de 2 mois qu'ils attendent, dans l'angoisse on l'imagine, pour venir à leur secours. Chaque académie a mis en place des commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Les demandes de bacheliers se comptent par milliers pour être accompagnées, surtout dans celle de Créteil à laquelle Sonia Princey a pu avoir accès.
C'est une véritable ruche. Les membres de la commission se sont répartis les dossiers et par groupe de 2, ils tentent de faire correspondre les places vacantes au profil des élèves avec sous les yeux une carte des transports.
Là, on a par exemple un candidat qui est dans le Val-de-Marne et une place vacante correspondant à son vœu se trouve en Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et donc, on a tapé sur le site pour voir quel sera son temps de trajet. Et on considère qu'au-delà d'une heure, un quart, ça pourrait être difficile.
Là, par exemple, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer?
Là, c'était un candidat qui n'a fait qu'un seul vœu de BTS, en fait. Donc, on voit clairement que c'est ce BTS-là qui l'intéresse. Donc, nous, on essaie de cibler, effectivement, le même BTS, quitte à ce qu'il aille un petit peu plus loin.
Tout est fait à la main, sur papier.
Il y a beaucoup d'humains, et pour moi, c'est l'essentiel de montrer que cet accompagnement existe encore après le bac, après des refus, après des listes d'attente. Ce travail est difficile, mais intéressant.
Les propositions sont aussitôt envoyées aux élèves.
C'est en temps réel, c'est-à-dire qu'une fois que nous, éventuellement, nous avons trouvé une proposition, nous la transmettons au service qui est juste derrière, et immédiatement, c'est saisi et la proposition est faite à l'élève.
La commission suspendra ses travaux à la fin de la semaine et reprendra le 22 août pour tenter de trouver une solution à chacun de ses candidats.
Et nous sommes maintenant à 2 jours de la fin de la phase principale de Parcoursup.
Le communiqué est tombé hier soir, peu avant minuit.
Elisabeth Borne est nommée ministre de la Transition écologique. Elle reste en même temps ministre des Transports. En revanche, elle ne sera pas ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, comme l'était François de Rugy. Ce qui fait dire à l'opposition que l'écologie est rétrogradée en deuxième division. Elisabeth Borne a déjà piloté les dossiers écologiques. Elle a été notamment directrice de cabinet de Ségolène Royal. Mais pour Europe Écologie Les Verts, cette nomination ne marque pas vraiment un tournant dans la politique de l'exécutif. Le porte-parole du mouvement, Julien Bayou, joint par Philippe Bocara.
Sans changement de cap, en fait, tout nouveau ministre est condamné à faire de la figuration. C'est-à-dire que la prochaine ministre aura à peu près le même bilan que François de Rugy, c'est-à-dire des renoncements et un décalage énorme entre les discours d'Emmanuel Macron et les envolées lyriques d'Edouard Philippe sur l'écologie. Et puis les actes, on attend encore. Elisabeth Borne en particulier, elle a été ministre des Transports. En fait, elle a accompagné le déclin des petites lignes et le déclin du fret ferroviaire. Donc je ne sais pas si ça représente quelque chose, mais si c'est pour aller dans ce sens-là avec l'écologie, on a un vrai problème d'orientation.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Une nomination express donc d'Elisabeth Borne, moins de 8 heures après la démission de François de Rugy, l'ex-ministre emporté par la crise des homards. De nouvelles révélations aussi de Mediapart sur l'utilisation de ses frais de mandat. L'ex-ministre qui dit avoir pensé aux mots de François Mitterrand après le suicide de Pierre Bérégovoy, livré au chien. Pour le directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique, il y a en effet là un réel problème. Il n'y a dans l'affaire aucune mise en examen. Alors à partir de quand un ministre doit-il démissionner? Mathieu Caron, joint par Lucie Barbarin.
C'est la victoire de la défiance qui est en train d'instiller un poison dans notre démocratie. Parce que si on fait démissionner des ministres tous les 3 mois, pour qu'à un moment donné, le pouvoir politique puisse travailler, ça va poser problème. Sur l'éthique, c'est une deuxième question qui nous est posée, c'est savoir comment on encadre le train de vie de nos élus. Parce qu'il y a ici un angle mort, notamment pour la question des frais de représentation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir ici, dans cette affaire comme dans les précédentes et comme dans les futures, une approche sereine et non pas une approche trop hystérisée. C'est extrêmement inquiétant en fait pour notre démocratie.
Pour le site d'information Mediapart, il n'y a pas débat. On nous traite d'inquisiteurs. Le président de la République a même parlé de délation. Notre réponse, c'est travail démocratique. Michael Hachdenberg, joint par Alexandra Hakoun.
C'est un procès qu'on nous fait à chaque révélation, finalement, peu importe la couleur politique de la personne mise en cause. Or, notre seul acharnement depuis une semaine, c'est de prouver la réalité des faits et d'avancer sur cette enquête qui a démontré l'usage un petit peu particulier qu'avait François de Rugy des deniers publics. Nous sommes évidemment formels sur les éléments que nous avons publiés dans nos articles, qui sont documentés, nous avons interrogé beaucoup de personnes. Donc nous continuerons parce qu'il y aura des affaires de Rugy, comme il y a eu des affaires Cahuzac ou comme il y a eu d'autres affaires, parce que les dispositifs de contrôle sont aujourd'hui inopérants.
Michael Hachdenberg, directeur des enquêtes à Mediapart, joint par Alexandra Hakoun. La passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et François de Rugy aura lieu à 14h. Elisabeth Borne qui sera aussi au Conseil des ministres ce matin puisqu'elle garde son portefeuille des transports.
Et c'est dans ce contexte, Bernadette, qu'une bataille s'engage aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Autour du CETA, le traité entre l'Union européenne et le Canada que les députés doivent ratifier, gauche et droite, écolos et agriculteurs vent debout face à cette coalition d'opposition, la majorité, Laurence Perron, veut croire au veto climatique.
Ce serait une sorte de parapluie vert que les Européens pourraient ouvrir si les Canadiens, au nom de la concurrence libre et non faussée, venaient à dénoncer les ambitions climatiques de l'accord de Paris.
Qu'est-ce que c'est que le veto climatique de manière très concrète ?
Roland Lescure, député La République En Marche.
La France décide de sortir du charbon en 2022. Je vous donne une hypothèse, un investisseur canadien qui aurait des parts dans des mines de charbon ou dans des centrales à charbon pourrait dire « je suis lésé, je poursuit le gouvernement français devant un tribunal. Et bien ça, le gouvernement français peut décider de saisir la Commission européenne et règle ça au niveau politique avec le Canada et on passe à autre chose.
En clair, là où d'ordinaire les choses se règlent devant les tribunaux de l'Organisation mondiale du commerce, là, ce serait un comité spécial composé de fonctionnaires canadiens et européens. Le problème pour les écologistes, c'est que ce veto n'existe pas. Il est encore en négociation. Mathieu Orphelin, député proche de Nicolas Hulot.
Il vaut mieux ajourner la ratification du CETA par la France en attendant que le Canada confirme qu'il est bien d'accord à 100% avec la proposition de veto climatique.
Les débats promettent d'être vifs, d'autant que ce parapluie vert, ça c'est ce que dénonce l'opposition, est aussi ouvert pour masquer le véritable casus belli pour les éleveurs français, les importations de bovins canadiens élevés aux antibiotiques et nourris aux farines animales.
Laurence Perron, lutte contre le changement climatique, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans l'Union européenne, c'est le programme promis par Ursula von der Leyen. Elle a été élue hier à la tête de la Commission européenne par les députés européens. Ils ont fini par être convaincus, mais de justesse, elle a été élue avec seulement 9 voix de plus que la majorité absolue qui était requise.
7h38, France Inter, la suite du journal Bernadette Chamonaz, quand la mer même rejette les migrants.
Une plage de rêve au sud de l'île de Djerba en Tunisie, des touristes en maillot de bain et des cadavres par dizaines, des cadavres de migrants sur la plage. Il y a 15 jours, le naufrage le plus meurtrier se déroulait au large de la Libye. 83 morts, 82 ont été retrouvés pendant 2 semaines, donc sur les plages. 3 rescapés ont été recueillis par le Croissant Rouge à Zarzis, en Tunisie. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Rémi Brancatou.
Dans ce dortoir sommaire du Croissant Rouge, Ousmane, 20 ans, raconte. Le 1er juillet, à 5h du matin, ce jeune Malien monte dans un Zodiac à Zouara, en Libye. 86 personnes à bord, il n'atteindra pas l'Italie. À midi, l'embarcation prend l'eau.
Oui, il y avait des trous dans le bateau. Le téléphone est tombé dans l'eau. On n'a pas pu trouver le téléphone.
Impossible donc d'appeler à l'aide. Aucun bateau humanitaire dans le secteur. 82 personnes se noient. Ils sont 4 à s'accrocher.
On a tenu une planche. Lundi, mardi, mercredi, puis 3 jours. On fait 3 jours dans l'eau. En ce moment-là, je me sens très mal. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de la nourriture. Je crois que nous tous, on va mourir là-bas dans l'eau.
Les pêcheurs tunisiens interviennent finalement. 3 hommes seulement survivront.
Non,
plus question de partir en France, nous dit son ami, rescapé lui aussi. Ça suffit, lâche-t-il. Le bateau, c'était la première et la dernière fois. Mais Ousmane, lui, veut retourner en Libye pour tenter d'atteindre l'Europe, pour jouer au football, dit-il.
Je voulais en repartir.
Ça ne vous fait pas peur de reprendre le bateau ?
Non, ça ne me fait pas peur.
Depuis jeudi dernier, tous les morts du naufrage ont été retrouvés, mais un autre corps a été découvert avant-hier à Zarzis. Suisse. Sans doute un nouveau drame, impossible d'en connaître l'ampleur toutefois, faute de rescapés pour témoigner.
Reportage de Rémi Brancato. Le chanteur Johnny Clegg est mort, il avait 66 ans. Il était devenu le symbole de la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud. Trait d'union entre noir et blanc avec ses chansons, notamment Assim Bonanga, chanson dédiée à Nelson Mandela. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans 5 ans. La capitale française, on le sait, accueillera les meilleurs sportifs de la planète. Certaines épreuves, bien sûr, ne peuvent pas se dérouler à Paris. On pense à la voile, ce sera à Marseille. On pense aussi au surf. 5 sites sont candidats, 4 en métropole et un à 16 000 km de la Tour Eiffel, Tahiti, Thomas Coignac.
Et pour convaincre, Tahiti a vendu une vraie carte postale. Les lagons, les eaux turquoises, mais surtout Tiupo. Tiupo, c'est une vague géante qui peut aller jusqu'à 15 mètres de haut. La surfeuse basque Liane Curen s'y est déjà frottée.
Je connais bien et c'est une des plus belles vagues du monde. C'est très difficile et un peu dangereux. Ça fait un peu peur, c'est beaucoup d'adrénaline et après de bonheur une fois qu'on en est sorti, un peu sans se faire mal. Quoi.
Tellement énorme que Tahiti a déposé une candidature pour un deuxième site par para au cas où Tiupo serait jugée trop dangereuse. En tout cas, le président de la fédération tahitienne, Lionel Théotou, est déjà content d'être dans les 5 finalistes.
Au départ, c'était un peu un rêve. Délocaliser tout un événement à 12 heures de décalage horaire de la France, ça me semblait un peu complexe. Quoi.
Et d'ailleurs, le président du comité international olympique, Thomas Bach, a déjà dit qu'il préférait un site proche du cœur des Jeux. Mais pour Lionel Théotou, le symbole de Tahiti serait beau.
C'est surtout donner la chance aussi aux Outre-mer de pouvoir montrer en fait les atouts que la France possède au travers de ses îles et pays ultramarins.
Alors Tahiti ou la métropole, la décision définitive devrait être rendue en début d'année prochaine.
Et en métropole, 4 autres sites, donc La Torche dans le Finistère, candidat, La Cano en Gironde, Biarritz dans le Pays Basque, Osgore, Cap-Breton, Seignos, tous ensemble, c'est dans le sud des Landes.
Et dans tous les cas, ça fait envie. C'était le journal de Bernadette Chamonaz sur France Inter. Il est 7h42.